Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi Média. Média. Podcast pour vous accompagner. Ma femme d'aujourd'hui a fait le choix de switcher de la finance à la tech médicale. Et tout ça, eh bien, il y a à peu près 10 ans, lorsque c'était encore les prémices de la digitalisation au Maroc. Allez, on y va avec elle pour son parcours.
Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Zineb Delessir-Khétoni, bonjour. Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Zineb ?
Très bien, merci. Merci Yasmine pour cette opportunité de parler sur Média.
Avec grand plaisir. C'est un honneur surtout de mettre justement la lumière sur des profils féminins. C'est ça le but de Femmes d'aujourd'hui, c'est d'aller à la rencontre des femmes qui font le Maroc d'aujourd'hui. Chaque femme apporte son lot à l'édifice du pays. Donc on y va avec vous. Vous, justement, c'est une tête super bien faite. Tabarkallah, comme on dit chez nous. Vous avez été formée aux États-Unis, vous avez fait des études de finance, ensuite vous êtes allée vers la tech. Pourquoi justement ? Pourquoi de la finance à la tech ?
Alors peut-être juste pour donner un petit background, je me suis rentrée au Maroc après 12 ans d'expérience académique et professionnelle en Amérique du Nord, comme tu l'as bien souligné dans ton introduction. Et puis à mon retour au Maroc, j'ai commencé par évaluer la possibilité de travailler dans la finance bancaire. J'ai très rapidement écarté cette éventualité quand j'ai découvert que mon pays avait connu des évolutions économiques importantes. Et à mon sens, je sentais vraiment pouvoir y apporter ma propre contribution. Et je parle d'il y a maintenant bientôt 10 ans. Et donc, naturellement, mes investigations se sont vraiment focalisées sur les besoins du secteur digital, ceux qui allaient faire la différence et avoir un impact sur la population. Et donc, ma première décision en 2012-2013, ça a été de ne plus travailler dans le monde de la finance où j'avais quand même baigné pendant quelques années à Wall Street. Mais vraiment, comme tu l'as mentionné, j'ai choisi d'apporter une petite brique à l'édifice de mon pays et celle de digitaliser un secteur clé de la pour la population qui est celui de la santé.
Absolument. Alors, on va y arriver justement. Mais quand tu dis je voulais apporter ma petite brique à l'édifice et donc pour moi c'était en digitalisant le secteur de la santé, la finance, pourtant tu as travaillé avec les plus grands et chez les plus grands, est-ce que c'était pas suffisamment stimulant pour toi au Maroc, ce secteur de la finance ?
Écoutez, comme je le disais, je pense qu'à l'époque, je dirais pas que c'était pas stimulant, mais après avoir travaillé à Wall Street, je pense que j'avais quand même fait le tour de beaucoup de choses dans le secteur financier. Et donc pour moi, c'était vraiment apporter quelque chose de nouveau, quelque chose dont vraiment le pays a besoin dans le secteur de la digitalisation. Et surtout qu'on était dans les prémices, hein, dans les prémices du monde digital et il fallait faire le pas. Et donc moi, j'ai fait le pas, j'ai sauté.
Donc Zineb Delessir est une femme de challenge.
Absolument.
Ben oui, parce qu'il y a 10 ans exactement, c'était vraiment les prémices. Parce que
oui.
Donc sortir d'un secteur que tu connaissais très bien, celui de la finance, débarquer au Maroc, ton pays natal et d'origine, mais dans lequel tu n'avais pas forcément travaillé avant, lancer quelque chose de nouveau. Alors, pourquoi la tech médicale en particulier ?
Alors, je dirais que la problématique que j'ai isolée à l'époque, hein, portait tout d'abord sur la gestion des rendez-vous, qui s'avérait être un véritable challenge en 2013.
À l'époque est-ce que tu l'as vécu personnellement ?
Oui, je l'ai vécu personnellement. Donc, quand on arrive d'un autre monde où quasiment tout est digital, où quasiment toutes les transactions se font à travers un smartphone, eh bien, pour moi, ça a été un vrai challenge que de devoir me réadapter à un nouveau monde, finalement. J'étais dans un monde et je suis revenue dans mon monde natal et il a fallu que je me réadapte. Donc, ça a été un challenge. Et donc, Le challenge a vraiment été pour moi de se dire très bien, il y a une problématique, comment aujourd'hui les cabinets médicaux gèrent leur rendez-vous. Très souvent, les assistantes sont non disponibles pour les prises de rendez-vous. Il y a des temps d'attente qui sont interminables. Et puis, finalement, en côtoyant le terrain, en rencontrant plusieurs professionnels de santé, eh bien, tout le monde s'est accordé sur le même constat. Et donc, à l'époque, donc 2013, à ce moment-là, ces professionnels de santé ont adhéré à mon projet pour les solutions qu'il a pu leur apporter. Et donc, c'est comme ça que la plateforme a été lancée et qu'elle a pu être lancée, puisqu'elle mettait à leur disposition un service qui intervient entre eux, les patients, qui fonctionne 24 heures sur 24. Tout bien évidemment les aidant à s'organiser pour offrir des rendez-vous structurés dans le temps et plus encore proposer une expérience patient beaucoup plus fluide et plus transparente. Donc ça a été vraiment les prémices de la plateforme et de la digitalisation, je dirais, de ce secteur. Hein. Encore une fois, on parle d'une partie du secteur de la santé qui est plutôt l'accès à la santé.
Alors, la plateforme dont tu parles, c'est Dabadoc.
Absolument.
Elle en est où aujourd'hui, pratiquement 10 ans après?
Alors aujourd'hui, on va dire que la plateforme a beaucoup évolué depuis son lancement officiel en 2014. Nous avons démarré nos activités au Maroc, puis nous sommes lancés dans des pays voisins. Et tout dernièrement, nous avons annoncé notre lancement en Côte d'Ivoire. Et bien évidemment, le service de la plateforme a évolué en proposant, au-delà de la partie prise de rendez-vous en ligne, des services de téléconsultation, des services à destination des entreprises, donc Dabadoc Corporate, pour digitaliser toute la partie médecine du travail au sein des entreprises. Donc la plateforme aujourd'hui a eu une croissance, je dirais, assez inopinée, dans le sens où il y a eu une adhésion et on est ravis qu'on a quand même réussi à percer dans un marché qui n'était pas mature à l'époque.
Alors, est-ce que c'était compliqué justement au moment du lancement?
Ah mais c'est sûr, hein, quand on se rappelle tous les défis ouais. Et voilà, les débuts, il y a eu plusieurs défis à surmonter. En 2013, on va dire que l'adoption du digital était très faible auprès des citoyens.
Mais tu y croyais, toi?
Oui. Pour moi, c'était... Vous savez, quand on évolue dans un environnement où on voit que finalement... les citoyens apprennent que les usages évoluent, ben, finalement, on n'a pas le choix parce que ça va venir à nous.
Exact.
Et donc, est-ce que ça allait venir en 2013 ou en 2020? Ben, il fallait bien commencer. Et donc, je dirais que j'avais un pari que ça allait venir. Mm. Et on est ravis qu'on ait été les pionniers, les précurseurs et qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés là où on est grâce justement à au fait qu'on a été pionniers et qu'on a imaginé le futur.
Alors, ce type de start-up justement, ce type de d'activité, ça génère du rendement comment? Grâce à la pub digitale, grâce aux clics, comment ça fonctionne?
Alors nous, on est une plateforme de service, on n'est pas une plateforme de communication puisqu'aujourd'hui, on est au service des professionnels de santé. Et plus généralement des différents acteurs de l'écosystème santé, donc les cabinets médicaux, les cliniques, les centres de radiologie. Et donc notre outil leur apporte une meilleure gestion au sein de leurs différents cabinets. Donc nous digitalisons toute cette expérience patient, mais aussi la gestion du cabinet, à savoir la partie dossier patientèle, la partie téléconsultation. Les revenus sont générés à partir d'abonnements.
D'accord.
À un service et non pas de la publicité. Nous ne sommes pas une agence de communication, nous sommes un service Voilà, un service en bonne et due forme.
Alors, on va revenir justement à tes débuts Zineb Desekretouni et à ce que tu fais aussi aujourd'hui. Donc, tu as démarré dans la finance, ensuite tu as switché vers la tech. Est-ce que c'était une reconversion professionnelle ou bien une suite, pour toi, c'est plutôt une suite logique?
Ah, pour moi, c'est pas du tout une reconversion, c'est plutôt une suite, c'est une continuité. C'est... La finance m'a permis de, en tout cas, d'avoir des bases. On a tous un apprentissage à la sortie d'école. On est ingénieur, on est financier, on est. Mais finalement, la formation académique qu'on reçoit nous permet de pouvoir, en tout cas, il y a cette fibre entrepreneuriale était déjà là. Elle m'a plutôt permis de vraiment continuer vers quelque chose que je voulais vraiment entamer, qui est l'entrepreneuriat.
D'accord. Donc ça, c'était vraiment dans ta tête depuis le départ, depuis les études, depuis l'expérience finance aux États-Unis, où il a fallu en fait passer par le vécu pour ensuite réaliser que c'était l'entrepreneuriat qui te motivait?
Non, je pense que c'est le vécu, c'est plutôt le vécu, c'est-à-dire que l'expérience professionnelle, comme je le disais, ça a été un tremplin. On a tous besoin d'apprendre à un certain moment de sa vie. Et puis le retour au Maroc m'a plutôt encouragée à me lancer dans l'entrepreneuriat.
D'accord. Alors, justement, par rapport à toute cette expérience cumulée, quelle est la place aujourd'hui de la femme dans la tech, de la femme marocaine en particulier, et puis dans le monde aussi, parce que j'imagine que vous n'êtes pas très nombreuses.
En effet, les femmes dans la tech sont pas nombreuses, mais je pense qu'aujourd'hui, d'une manière générale et dans le monde, les femmes sont vraiment en train de vivre un véritable sursaut pour dépasser les préjugés. À mon sens, le cœur du débat n'est pas celui de « est-ce que je suis une femme ou est-ce que je suis un homme ?» mais le cœur du débat est vraiment celui de l'entrepreneuriat en général et tous ces obstacles qu'un entrepreneur doit vraiment dépasser pour concrétiser son ambition. L'enjeu n'est pas le fait d'être une femme, mais c'est vraiment, je dirais, les obstacles. Et qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde ait sa chance, indépendamment de son genre, de son orientation ou de son idéologie. Pour moi, la femme, comme tous les autres, doit vraiment contribuer et profiter d'un contexte équitable, que ce soit dans la tech ou dans un autre secteur, ou dans l'intelligence artificielle ou dans la recherche scientifique. La femme a sa place, quel que soit son genre. Voilà.
Absolument, mais on parle de ce plafond de verre, on parle de la condition de la femme, l'accès de la femme à certains postes, on parle de toutes ces choses-là, c'est-à-dire qu'on a beau se dire que la femme comme l'homme ont bien sûr toutes les chances, quel que soit leur background, quel que soit de l'individu de façon générale, comme tu l'as très bien dit, mais il y a une réalité aussi, il y a une réalité sociétale et culturelle et presque universelle.
Oui. Bon, en effet, la réalité, elle est là. Maintenant, après, c'est un travail individuel et la femme doit vraiment se dépasser et je vais pas dire prouver finalement.
Oui, malheureusement. tu as déjà eu à prouver justement. Pardon, Zineb, tu as déjà eu à prouver cette différence. Tu l'as déjà ressenti lors de réunions, de rencontres avec des partenaires. Est-ce que tu as senti à un moment ou à un autre que ta condition féminine changer la donne d'une manière ou d'une autre?
Franchement, toute franchise, vraiment, personnellement, non. Je n'ai jamais vraiment senti cette différence. Mais par contre, les obstacles en tant qu'entrepreneur, j'en ai vu et j'en ai vu beaucoup. À mon sens...
En tant qu'entrepreneur femme?
Non, en tant que femme, je n'ai pas réellement senti de pushback ou de regard différent. Mais c'est plutôt vraiment les obstacles à dépasser et les challenges en tant qu'entrepreneur dans le quotidien.
Femme ou homme, en fait?
Pardon?
Femme ou homme? finalement.
Oui, femme ou homme.
Ouais.
Après, quand on parle dans le monde, peut-être qu'il y a des sociétés qui sont plus conditionnées, mais je pense qu'aujourd'hui, on a la chance quand même d'être dans un pays qui a une ouverture d'esprit, où la femme a sa place. Et qu'au Maroc, on a quand même la chance de réussir.
Alors, justement, en parlant d'entrepreneuriat, pour expliquer, on va dire, ce jargon, quelle est la différence entre entreprendre, lancer une entreprise et lancer une start-up? C'est quoi la différence?
Aucune.
C'est ça, on est d'accord.
Aucune. Start-up, c'est juste un jargon pour dire qu'une start-up, c'est une entreprise qui a fort potentiel de croissance. Mais c'est une entreprise. Aujourd'hui, au Maroc, il n'y a pas un statut juridique start-up. Aujourd'hui, Dabadoc est une entreprise, est une PME, mais elle n'a pas un statut juridique de start-up, d'ailleurs, qui n'existe pas au Maroc.
Donc c'est à moi à la mode, c'est tout.
Oui, absolument. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est plus start-up dans le mindset, on est plus start-up dans notre quotidien opérationnel, mais nous sommes une entreprise avec ses différentes équipes et puis toutes les, je dirais, les obligations administratives qu'il faut suivre. Lancer une start-up ou lancer une entreprise, c'est pareil. Hein.
Alors justement, Zineb El Sekhritouni, tes conseils, à partir de ton expérience bien sûr, à faire ou à pas faire en lançant sa start-up?
Déjà, il faut savoir que lancer sa start-up ou lancer une entreprise, c'est une bataille au départ, dans le sens où il faut vraiment y croire pour faire aboutir son projet. Rien n'est simple, donc il faut être très très persévérant pour vraiment avoir des résultats. Et il faut savoir s'entourer, parce que seul on n'avance pas, mais en équipe on arrive vraiment à avancer. Donc il faut savoir s'entourer d'une équipe à fort valeur ajoutée et qui va vraiment faire réussir le projet. Donc, en quelques mots, je dirais, mon motto, c'est plutôt persévérance, si on croit vraiment en son projet. Voilà.
Mais justement, parfois, même quand on croit à son projet, parfois, quand ça va mal, on se pose des questions. Est-ce qu'il faut bannir tous les moments de doute?
Alors, quand on a des moments de doute, c'est là où on a besoin de mentors. Et c'est là où c'est très important d'être accompagné. Je pense qu'aujourd'hui, au Maroc, il y a eu une évolution entre 2013 et aujourd'hui, où à l'époque, il n'y avait pas de société qui accompagne, plutôt les incubateurs ou les accélérateurs qui accompagnent les entrepreneurs. Aujourd'hui, il y en a quelques-unes sur le marché. Et donc, il ne faut pas se sentir seul. Il faut pouvoir aller demander de l'aide pendant ces moments de doute pour savoir comment on peut mieux avancer, ou peut-être faire un pas en arrière pour en faire 10 en avant. Mais l'idée n'est pas de fermer boutique et de se dire ça n'a pas marché, mais de continuer d'essayer, parce que ça ne marchera peut-être pas la première fois. Il faut peut-être essayer, c'est ce qu'on dit, c'est iterate, c'est modèle d'itération, jusqu'à trouver le bon modèle.
C'est ça, répéter.
Absolument, répéter,
voilà. Eh bien, Zineb El Sekhritouni, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Vous êtes la fondatrice de Dabadoc et avec vous, justement, on a parlé féminité, on a parlé entrepreneuriat, on a parlé start-up. Et voilà, merci beaucoup pour ce bel échange.
Merci à vous.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.